Voilà, bonjour. Encore à toutes celles et ceux que j'ai pas vus en personne. On aura du temps après, encore aussi. Hier matin, j'ai eu un moment très très agréable. J'ai pu partager un petit déjeuner dans la nature avec des amis. Juste le chant des oiseaux, on allait cueillir du tilleul. C'était magnifique. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aimé et je pensais en rentrant chez moi à la douceur. Je sais que j'ai une tête de brute, en général on me le dit quand on ne me connaît pas. Hein. Après quand on me connaît ça va. La douceur qui est quelque chose dont on a tous besoin. Mais en fait c'est un mot un petit peu piège. Hein. Si je vous disais, est-ce que vous aimez les douceurs? Alors là, je pense que beaucoup diraient oui. Si on le met au pluriel, surtout, hein, on sait ce que... Voilà, hein. Vous fabriquez de très bonnes douceurs dans ce pays, c'est bien. Et puis, on a souvent une idée de la douceur. Soit c'est les confiseries, le sucre, ok, ça c'est une chose. Soit c'est les gens qui sont gentils, comme on dit. Hein. Vous savez, dans le sud de la France, on a une expression, on dit de quelqu'un, il est brave. Ça veut dire, il n'est pas méchant. Pas tout à fait fini, mais il est gentil, hein, voilà, un peu. Hein. C'est pas de ça que je veux parler ce matin. La Bible utilise ce mot, elle parle de la douceur. Notamment, elle dit que Jésus était un homme doux. Hein. Je vous lis juste un petit verset, Matthieu 21:5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur. Hein, c'est quand le jour des rameaux, il monte. Il vient plein de douceur. Il pourrait être plein de force, il l'est aussi, plein de courage, il l'est aussi, de justice, de vérité. Il est plein de douceur. Et avant que je continue, parce que sinon je ne vais pas le faire, voilà. Ce que j'avais pensé pour ce matin, c'était je vous ai préparé des petites feuilles comme ça, un été de douceur. Puis l'idée, c'était que vous puissiez noter une ou l'autre pensée qui vous interpelle, pas forcément quelque chose que j'ai dit, hein. Et que vous le preniez avec vous, j'ai écrit « Petit semis de pensée à méditer pour l'été ». Et que vous l'emportiez pour cet été, vous entendez d'autres choses en l'été, bien sûr. Je te laisse faire circuler. Hein. Parce que vous savez comment fonctionne le cerveau humain. Déjà, juste naturellement, on entend quelque chose et puis on fait des associations d'idées. Hein. Une chose nous fait penser à autre chose. Chez certains, c'est assez classique. Chez moi, c'est toujours très bizarre, les associations d'idées. C'est à cause de mon cerveau qui n'est pas tout à fait comme le vôtre. Mais en plus, le Saint-Esprit fait ça de façon spécifique. Hein. Quelqu'un dit quelque chose et puis il applique à nous quelque chose de particulier. Alors si vous voulez, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir, je ne vais pas les relever, etc. Hein. Mais si pendant ce moment-là où c'est moi qui parle quand même, vous avez une pensée qui vous traverse, « Ah, j'aimerais reprendre ça tranquillement chez moi, le méditer », ça peut-être pas un lien direct avec ce que j'ai dit, mais ça vous a fait penser, alors notez-le. Puis peut-être parce que tout le monde n'a pas un stylo, j'en ai amené quelques-uns, j'ai pris ce que j'ai trouvé chez moi. Donc, « Voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne. » Sur un âne, non, le petit d'une ânesse. Hein. Et puis, Paul... aux Corinthiens, il dit « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Donc, ça veut dire que, juste, il y a d'autres versets, mais ça faisait partie des caractéristiques du Christ. Hein. Maintenant, quand on étudie le mot « douceur » dans la Bible, il n'a pas exactement le sens qu'on lui donne couramment. Hein. Il y a aussi le sens courant, c'est-à-dire quelque chose de doux, hein, qui est agréable, qui est tranquille, qui est gentil. Hein. Ce matin, j'ai trouvé que le moment de chant était plein de douceur, par exemple. Hein, voilà. Les chants étaient tranquilles, il y avait de la douceur. Donc cet aspect-là, il existe. Mais il y a un autre sens qui est quand même plus fort, et quand il est parlé de Christ, et puis de nous, en tant que fruit de l'esprit, on va le voir, la douceur est aussi un fruit de l'esprit, il y a une autre caractéristique. Et le sens de ce mot, c'est notre capacité à recevoir ce que Dieu nous envoie et à le prendre. Hein, vous voyez ? C'est aussi un sens du mot douceur et c'est celui qui est souvent dans la Bible et qu'on n'aperçoit pas forcément parce que nous, douceur, on pense gentil, sucré, facile. Quoi, hein. Voilà. Un exemple pour que vous compreniez bien dans l'Ancien Testament de cette douceur, celui qui illustre le mieux, parce qu'il est une représentation de Christ dans l'Ancien Testament, c'est Joseph. Joseph, le fils de Jacob, hein, le 11e fils de Jacob, l'avant-dernier. Je suis en train de pas mal réfléchir sur sa vie parce que j'écris une série de petits sketchs pour un camp d'enfants sur la vie de Joseph. On m'a commandé ça, puis je le fais avec plaisir. Ça me permet de méditer un peu sur ces histoires-là. Et en essayant de le remettre dans la vraie vie, je me disais, mais c'est une vie de fou furieux qu'il a eue, ce pauvre Joseph. Bon, d'accord, c'est le chouchou de son père. C'est une erreur de la part du père, mais lui, il n'y est pour rien, il n'a pas demandé. C'est même pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais voilà, c'est lui le chouchou. Donc, à cause de ça, toute la fratrie le déteste, peuvent pas le voir. Il va être, d'abord, ils veulent le tuer. Finalement, il passe à côté de la mort. Il s'en sort tout juste, vendu comme esclave. Donc, déjà, être vendu comme esclave par ses frères. Je sais pas si ça vous, ben non, ça vous est pas arrivé, j'imagine, moi non plus. C'est violent quand même. C'est très, très, très violent. Mais en tout cas, dans ce qui ressort des textes, il ne devient pas amer, il ne devient pas aigri, il ne se dit pas « je vais être comme Spartacus, un jour je vais me libérer, je vais revenir avec des esclaves et je vais tous les tuer ». Non, il fait son chemin, il est vendu dans une maison, là ben, il fait bien son boulot, Dieu est avec lui, en très peu de temps il devient l'intendant de la maison, toujours esclave mais chef de tous les esclaves et de gérer la maison. Manque de chance pour lui, en plus d'être le chouchou de son père, il était beau, comme quoi c'est pas toujours, moi j'ai au moins évité cette épreuve-là dans la vie. Et alors, il était tellement beau que la seule chose qu'il n'avait pas le droit de toucher dans cette maison, c'était la femme du patron, ce qui est assez logique. Et ben, elle le trouve beau, elle lui fait les avances, elle insiste, il veut pas, et puis finalement, elle le prend par sa chemise, il s'enfuit. Et il laisse sa chemise, et là, elle est tellement vexée que quand son mari rentre, elle dit « Oh, tu as amené un esclave, il m'a agressé, il voulait me violer, regarde, là. » Elle a balancé son cochon, et puis il s'est retrouvé en prison pour avoir rien fait. Donc, vendu comme esclave, envoyé en prison, toujours sans avoir jamais rien fait de mal, quoi. Et on voit toujours aucune trace d'amertume, il est là, et puis il se dit « Puisque je suis en prison, qu'est-ce que je peux faire de bien dans une prison ?» Et en peu de temps, il devient le responsable de la prison. Toujours prisonnier, comme avant, toujours esclave. Mais c'est lui qui gère la prison, le chef de la prison, cela coule douce, et puis c'est lui qui gère tout, quoi. Puis là, il y a, vous connaissez l'histoire, deux dignitaires, le chef des boulangers et le chef du bar du pharaon, qui sont envoyés en prison parce que le pharaon est un peu versatile. Voilà. Et puis, ils font un rêve et ils leur expliquent leur rêve. Et puis, bon, il y en a un qui est bien, parce que c'est dans 3 jours, tu seras libéré, tu retrouveras ton boulot. L'autre, c'est dans 3 jours, on va te pendre. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas sa faute. Les rêves s'accomplissent. Et puis là, on pourrait s'imaginer quand même le gars dont il a interprété le rêve, qui se souvienne de lui. L'ingratitude humaine, comme la bêtise, est infinie. Voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Et puis, finalement, voilà, après 2 ans après, plus de 2 ans après, quelques années après, ouais. Il sort de prison et puis il interprète les rêves du pharaon. Et puis il devient le plus haut dignitaire en Égypte sous le roi. Voilà, donc vous voyez un peu ce parcours. Et puis quand il va avoir l'occasion de se venger de ses frères, il ne va pas le faire. Enfin, il va un petit peu jouer quand même avec, un tout petit peu. Les faire un peu... Mais non, il ne va pas leur en vouloir et tout. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme ça traverse tout ça sans devenir amer, frustré, vouloir se venger, colérique, C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je dis souvent l'eau bouillante qui durcit les œufs ramollit les carottes. La même épreuve fait qu'un devient amer et l'autre devient doux. Mais pas cette douceur, gna 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 gna, je suis doux. Non, c'est une force de caractère qui dit il y a des choses que je ne choisis pas dans la vie, et alors celles que je ne choisis pas et que je ne peux pas changer, je vais les laisser traverser et passer. On a eu un coup de vent assez fort cette nuit avec l'orage, là. Et j'ai remarqué ce matin, en allant voir un peu les dégâts, qu'il y avait deux sortes de choses. Il y avait les objets qui ont essayé de retenir, enfin, ils n'avaient pas le choix, qui retenaient le vent, et ceux où le vent pouvait passer au travers. J'ai un peu des arbustes, etc. Ils n'ont pas souffert. Ouais, c'était un peu décoiffé, mais pourquoi ? Parce que le vent passe au travers, et puis il continue. J'avais un parasol mal fermé, lui, il a mal vécu la nuit, quoi. Voilà. Vous voyez ? Et c'est un petit peu ça, la douceur. C'est, je ne choisis pas la tempête qui arrive, on ne les cherche pas, on ne les veut pas. Mais quand elle arrive, puisque de toute façon, je ne peux ni l'éviter, que je ne l'ai pas voulu, mais qu'elle est là, qu'est-ce que je fais avec ? Je dis, au-dessus de ça, Dieu est en contrôle. Et je la laisse traverser. C'est pas que je dis super une épreuve. Non, c'est pas ça. Mais Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ton courage, donne-moi ta tranquillité, etc., etc., pour que elle passe, et puis moi je reste, et puis je continue mon chemin. Et donc Joseph est un exemple magnifique de ça, peut-être le plus beau de l'Ancien Testament. Jésus, bien sûr, lui, c'était parfait chez lui. Mais si vous lisez dans Galates 5, 22, 23, où on a la liste du fruit de l'esprit, un fruit, mais avec des caractéristiques différentes. Vous savez, un fruit, il est doux, juteux, sucré, frais, etc. Donc le fruit de l'esprit a plusieurs caractéristiques. Et l'une d'elles, c'est cette douceur. Et c'est de ça qu'il est parlé. Une chose que je dis souvent et qui est vraie pour ça, le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas l'erreur, c'est la contrefaçon. Parce que l'erreur, ce n'est pas grave, un jour on s'apercevra que c'est faux. La contrefaçon, c'est quand je crois que quelque chose est vrai, donc c'est bien, et puis ce n'est pas ça. Et j'aimerais préciser, parce que en tant qu'étranger, même si ça fait 12 ans que vous m'avez accueilli et presque adopté, et je suis encore un peu étranger, mais pas tant que ça, il y a une caractéristique culturelle qui est très forte dans votre pays et qui rend le pays agréable à vivre, parmi d'autres choses, c'est le fait que les Suisses disent toujours « je suis reconnaissant ». Mathieu m'a fait écouter des discours d'hommes politiques, pourtant c'est pas les mieux en général. Dans ses vœux, il dit 20 fois « je suis reconnaissant ». Les gens sont reconnaissants. Alors, il y a un danger, c'est qu'on confonde cette douceur biblique avec une façon de dire « je suis reconnaissant » mais qui cache de l'amertume. Et ça, personne ne peut le voir pour quelqu'un d'autre, c'est personnel. Mais il faut faire attention que la reconnaissance, la douceur, soit pas juste une façon de toujours courber les chines parce qu'on a une mauvaise image propre ou parce que de toute façon je peux pas changer les choses. Alors, c'est j'ai un cancer, je pourrais en avoir deux. Ça pourrait être pire. Non, c'est pas ça. On m'a viré injustement. C'est pas grave. Ailleurs, il y en a qui meurent de faim. Non, mais si c'est injuste, c'est injuste. Jésus était l'homme parfait dans la douceur. Voyez comment il parlait aux pharisiens, voyez ce qu'il a fait dans le temple, il a pris un fouet avec des cordes, il a tout cassé. Donc c'est pas une petite « oh mais ça ira toujours bien, on est reconnaissant ». Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est vraiment quelque chose, au contraire, qui est très viril, la vraie douceur, parce que c'est « je vais pas laisser cette opposition, cette épreuve me rendre amer ». Parce que l'amertume, c'est le cancer de l'âme, c'est une des pires choses qui existent. Et des fois on y tombe tous dedans, c'est pas, on va pas en enfer parce qu'on devient amer, mais on se détruit notre vie, on détruit celle des autres, et c'est pas une fatalité, et on a un antidote, on va dire, à l'amertume, c'est la douceur, qui encore une fois n'est pas tout accepté. L'injustice, c'est l'injustice, si on peut la combattre, on la combat, tout ce qu'on peut aller contre et qui n'est pas bon, on doit être, la colère, ça fait partie des outils que Dieu nous a donnés pour quand quelque chose n'est pas juste, on doit le dire. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Luigi nous a parlé récemment. Il y avait une journée, je ne sais plus le jour, je crois que c'était le 14 juin. C'est pas normal qu'une femme qui fait le même travail qu'un homme n'ait pas le même salaire. Là, c'est pas une question de « oh, ben, il faut être doux ». Non, il faut le dire, c'est injuste. Si elle fait le même travail, elle doit avoir le même salaire, etc. etc. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là où on a besoin de la douceur. Et une des choses qui va nous aider à manifester la douceur ou à la pratiquer, puisque ce n'est pas quelque chose qui est spontané, qui vient tout seul, c'est un principe spirituel qui est magnifique, qui se trouve dans un verset, qui se trouve lui-même dans la première épître aux Corinthiens, si je ne me trompe pas, au chapitre 10 et au verset 13. Je vous la lis dans une traduction assez classique, seconde, parce que c'est très correct. Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine, c'est-à-dire qui arrive à d'autres êtres humains, c'est ça que ça veut dire. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, donc là ça me plaît bien, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça m'a toujours amusé, cette espèce de paradoxe. Il va vous permettre de sortir en vous donnant ce qu'il faut pour y rester dedans. Et ce verset, c'est un verset qui m'a été très très utile dans ma vie, j'en ai eu besoin très très souvent, Il fait partie de mes petits outils. Vous savez, j'ai toujours un couteau dans la poche, j'ai toujours un bout de ficelle, j'ai toujours... Ce verset, il fait partie des trucs que j'ai toujours avec moi dans ma poche, que je pose le soir à côté de mon couteau sur la table de nuit et puis que je remets le matin dans ma poche. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que quand quelque chose vient et nous agresse, nous fait mal, nous attaque, nous blesse, etc., etc., toutes les oppositions de la vie, quelle que soit la forme qu'elles prennent, hein, nous avons... une certitude dans ce domaine-là, parce qu'il y a plein de domaines où on est sûr de rien. Hein. Je l'ai déjà dit, mais moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui citent sans arrêt le verset de Jérémie, là. J'ai des projets pour toi, projets de paix, de prospérité, d'avenir, etc. Ben, je suis désolé, il y a des chrétiens, ils ne sont pas en prospérité, puis finalement on leur coupe la tête, et puis ils ont tout perdu avant, et puis ils ont eu beau répéter ce verset, ben, on n'a aucune garantie, hein, à ce niveau-là. Mais il y a des choses qui sont sûres dans la Bible. Jésus, par exemple, a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sachant que la fin du monde, pour moi, c'est en tout cas la fin de ma vie. Ce sera la fin de mon monde. Hein. Pas, je ne suis pas le monde, mais mon monde à moi, il s'arrête quand moi, je ne suis plus là. Quoi. Hein. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est certain. Je peux être en prison, je peux être calomnié, je peux être malade, je peux souffrir. Christ sera toujours avec moi. Ce verset-là, ce qui nous explique aussi, c'est une chose qui est certaine tout le temps. Il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il ne nous dit même pas que les épreuves vont passer. Il nous dit que quand une épreuve nous tombe dessus et qu'elle est de nature à nous écraser, hein, si je prends un exemple simple, admettons que ma capacité de charge maximum soit de 5 kg, à 5 kg, je suis écrasé parce que ben, voilà, on est comme les essieux, on a une charge maximale, hein, même s'il y a une petite sécurité. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Dieu m'évite l'épreuve ou qu'elle passe et puis qu'elle s'arrête de suite. Mais... j'ai une capacité de 100 kilos à supporter l'épreuve. Il y a une épreuve de 500 kilos qui me tombe dessus. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il fait un petit tour de passe-passe et il transforme l'épreuve de 500 kilos en une épreuve de 5,2 grammes. Ça veut dire qu'elle ne va pas m'écraser et je vais pouvoir marcher en la portant. Mais je suis à ma limite, hein, mais j'ai progressé de 2 grammes. Hein. Et ma limite maximum, la prochaine fois, elle sera 5 kilos et 2 grammes. Peut-être 1, peut-être 0,5. Hein, voilà. Et c'est ça qui te fait. Parce que, c'est ce que dit ce texte, il est assez simple. Hein. Avec l'épreuve, Dieu a mis dedans ce qu'il faut pour que vous puissiez la supporter. Puis le mot supporter, vraiment, il veut dire ça. Hein. Il veut dire porter par en dessous. Voilà. Hein. C'est le même quand il est dit dans l'église, supportez-vous les uns les autres. C'est pas... supportez-vous, portez-vous par en dessous les uns les autres. Hein. On passe dessous et on marche avec. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que comment manifester la douceur si quelque chose m'écrase ? Moi, quand je suis écrasé, je ne suis pas doux. Hein. Personne. On a tous un seuil où on ne peut plus et quand on ne peut plus, on est agressif, on est méchant et on devient amer. Hein, et puis on fait du mal aux autres et à nous-mêmes. Et Dieu nous a donné cette promesse, c'est une certitude. Oui, vous aurez des difficultés, plus grandes, plus grosses, petites, chacun les siennes. Et puis tout le monde pense que celle de l'autre est beaucoup plus facile que la nôtre. Hein, c'est toujours comme ça. Ah, si j'avais celle-là, ça serait facile. Hein. Non. Mais on a cette promesse-là. Pas qu'elle va disparaître. Paul a prié plusieurs fois pour une épreuve qu'on ne sait pas ce que c'était. Hein. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, tous les jours, je transforme cette épreuve insupportable en une épreuve supportable, mais qui pour moi me paraît insupportable. Mais Dieu connaît la vraie limite. Hein. C'est le meilleur des coachs parce que lui, il connaît réellement notre point de rupture. Et puis, il travaille toujours à le point de rupture moins un cheveu. Voilà, toujours parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il va, d'une part, développer notre capacité, mais aussi éviter qu'on soit écrasé et qu'on devienne amer. Donc, ce n'est pas une fatalité, l'amertume, et la douceur est quelque chose qui se développe. C'est comme des muscles qu'on travaille ou comme une aptitude, comme la mémoire qu'on va travailler, etc. Plus on va le pratiquer, plus on va... en avoir en nous. Et puis, c'est quelque chose qui est important parce que souvent on se dit comment on peut témoigner à nos voisins, nos amis, etc. Hein. La douceur, dans ce sens-là, comme je l'ai défini ce matin, c'est quelque chose qui se voit. Hein. Il y a un verset qui dit, Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Hein. Elle se voit. Quelqu'un qui est doux dans l'épreuve, ça se voit. Il est pas là ce matin, alors je peux en parler. J'ai vécu un moment incroyable, un des moments les plus forts de ma vie, je crois, en allant amener une petite plante et une carte quelques jours après la cérémonie pour Marty sur la tombe. Et je ne savais pas que j'allais rencontrer Fred qui était là-bas. Et quand je suis arrivé et que je l'ai vu, il était assis sur l'endroit où on remplit les arrosoirs, là. Vous voyez comme c'est un grand monsieur tout long, tout, le dos droit, les genoux, tout à l'équerre comme ça. Et puis, il était là et il méditait là. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux, j'étais bouleversé. Puis on est resté demi-heure, trois quarts d'heure à échanger un moment ensemble. Il y avait une douceur. Et puis, ce n'était pas de la mollesse, de la gna gna gna. Non, lui, il pleurait pas, il n'y a que moi qui pleurais. Hein. Non, je ne pleurais pas parce que quand même, je sais me tenir quand il faut. Mais je suis reparti de là, vraiment. Je me suis dit, si je suis venu en Suisse 12 ans pour vivre ce moment-là, ça me suffit, quoi. C'est tellement fort. Et c'est quelqu'un que j'aime rencontrer parce qu'il y a cette douceur-là qui est. C'est une douce. Hein, vous connaissez le personnage, pour ceux qui le connaissent, ou peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est un monsieur qui est. Voilà, on ne dirait pas de lui qu'il est doux. Hein, voilà. Et il y a cette douceur-là qui est la douceur de Job à la fin. Hein. Voilà, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni, puis on y, voilà, sans amertume, vraiment, quoi. Et ça, c'est juste le travail de Dieu dans les vies. L'autre personne qui est mon professeur de douceur. C'est ta maman, Pascal. Hein? Et c'est incroyable parce que donc la mémoire est très faible, pas partie en plein, non? Elle se rappelle de ses enfants, quelque chose, mais elle reste douce. C'est pas non plus quelqu'un de faible du tout, hein, si vous la connaissez pas. Pour ceux qui la connaissent, vous savez. Mais ce que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, elle perd petit à petit plein de facultés, et il reste une chose, cette douceur en elle. Qui fait qu'elle n'est pas amère, elle n'est pas frustrée, elle est dans un homme, et puis ben, la mémoire est plus trop là, et puis c'est pas facile, tout ce qui va avec. Hein. Mais il y a cette douceur qui est là, puis il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde le sait. Hein. Quand je vais la visiter, ah, c'est le monsieur qui vient voir Madame Reichen, vous savez, la dame qui est toujours contente. Mais c'est pas contente, gna gna gna, ça fait tellement partie d'elle parce qu'elle a passé sa vie, je peux imaginer, moi je la connais que depuis 10 ans. Elle a passé sa vie à développer ce fruit de l'esprit, la douceur, et c'est devenu tellement fort que je pense que c'est la dernière chose qui la tient encore debout. Hein. Quand on la voit, on se dit on pourrait la soulever avec 2 doigts tellement qu'elle est fragile. Et il y a cette force-là qui est encore dans le regard, dans ses attitudes, et c'est magnifique. Et moi, je me dis, j'ai envie de vieillir en devenant de plus en plus doux. C'est beau. Et la dernière chose avant que je termine, c'est que la douceur, donc j'ai dit c'est une façon d'accepter, de faire face à ce que Dieu nous envoie, mais pas que aux difficultés. Hein. Y a un très très beau verset, que je retrouve, vous savez que les références et moi on est toujours un peu fâchés. Voilà, Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de mal, de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase. Il faut déjà se sortir de la tête que ce verset, il s'adresse aux gens qui ne sont pas sauvés pour être sauvés. Il parle à des chrétiens ici. Hein, donc sauver vos âmes, ce n'est pas ne pas aller en enfer. Hein. C'est sauver nos âmes de l'amertume, de la colère, de l'égoïsme, de la méchanceté, du vide. Hein. C'est ça, sauver nos âmes dans un verset comme ça. Le salut, Christ nous l'a acquis, c'est super, on l'a, on le remercie tous les jours pour ça, ou plusieurs fois par jour, c'est super. Mais Dieu veut sauver nos âmes, c'est-à-dire que nos âmes qui naturellement, à cause du péché, deviendraient amères, égoïstes, méchantes, aigries, etc., etc. Il veut les sauver de ça. Hein. Et là, on voit que d'accueillir les pensées de Dieu avec douceur, ça sauve nos âmes. Et encore une fois, donc c'est le même sens du mot. Hein. Ce n'est pas douceur, oh, je lis que les psaumes parce que c'est joli, c'est de la poésie, ça me fait plaisir. Ce n'est pas ça, accueillir avec douceur. Accueillir avec douceur, c'est que moi, quelqu'un me fait du mal et ce que j'ai envie, c'est sortir mon épée et y couper la tête. Hein. Et la parole de Dieu vient et elle me dit, aime tes ennemis. Et là, je dis, mais j'ai pas envie d'aimer mon ennemi, j'ai envie d'y casser la figure. Et puis, j'ai une discussion avec Dieu et puis au bout d'un moment, je dis, ok, c'est toi le boss, tu as raison, j'ai tort. C'est ça la douceur. Après, je lui dis, bon, mais par contre, je ne suis pas capable, alors tu vas venir le faire, ou ça ne se fera pas. Mais en tout cas, je t'autorise à le faire dans ma vie. Hein. Et puis, il le fait dans le temps, petit à petit, etc. Il va le faire, quoi. Donc, dans le sens positif, on a besoin de douceur pour accueillir les épreuves, mais on en a besoin, donc, pour accueillir les pensées de Dieu, parce que ces pensées ne sont pas nos pensées. Hein. Aimez les gens gentils qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui vous brossent dans le sens du poil et qui font ce que vous voulez quand vous voulez. Même la personne la plus pourrie du monde sait le faire. Aimer les gens quand ils sont différents, désagréables, etc., etc., c'est difficile, c'est pas naturel, c'est impossible, mais Dieu a une pensée là-dessus et je la reçois avec douceur. Et ça s'applique à tous les domaines que la parole de Dieu traite. Hein. Et c'est pour ça que chaque fois que je vais méditer, lire des textes, vivre avec, hein, prendre ces pensées de Dieu, et puis les laisser imprégner ma vie, infuser dans mes pensées, je dois le faire avec douceur. Parce que très souvent, naturellement, qu'est-ce que je fais ? Je lis la Bible en triant, hein, un peu comme certains enfants mangent. Ça, c'est les oignons, j'aime pas. Ça, c'est les carottes, j'aime pas. La viande, oui. Le ketchup aussi. Et puis, ils trient, hein. Ce qui n'est pas très bon pour leur santé. On peut le faire sur un plat ou sur un truc. On a un joker, mais pas tout le temps. Mais on peut faire ça en tant que chrétien avec les pensées de Dieu. Hein. Il y a tout un courant de pensées dans la Bible qui me convient. Alors celles-là, je les accueille, je les développe, j'en parle. Et puis il y a celles qui ne me plaisent pas parce que elles vont à contresens chez moi. Et Dieu dit, tu veux sauver ton âme ? Accueille-les aussi avec douceur. C'est-à-dire pas avec, oh, elles sont jolies, non, avec, ah, elles ne me plaisent pas. Elles sont amères. Hein. Quand j'étais enfant et que je mangeais du raisin, c'était mes deux grands-pères étaient viticulteurs, mais j'en avais un en tout cas qui avait quelques vignes. Puis il avait un raisin que lui trouvait très bon, mais moi je le trouvais un petit peu amer. La peau était un peu épaisse et puis je trouvais que les pépins étaient un peu amers. Quoi. Puis lui mangeait ses grains de raisin et puis moi je les mangeais, puis j'étais petit, hein, mais je triais la peau, les grains et tout. Un jour il m'a dit... Il faut manger tout, le doux avec l'amer. Et puis, avale-moi ça, arrête de gaspiller un peu là. Les meilleures choses, elles sont dans la peau, dans les pépins. Je ne sais pas comment il savait à l'époque, parce qu'il n'avait pas trop étudié ce sujet-là, mais il devait le savoir instinctivement. Hein. Et la parole de Dieu, c'est comme ça. Ben, on prend, mais nous, on aimerait juste le jus, hein, sans la peau, sans les pépins, sans l'amertume. Ça. Ah, le prophète de l'Ancien Testament, quand il mange la parole de Dieu, il dit « C'était doux, mais c'était amer dans ma bouche, hein, dans mes entrailles. » Oui, parce qu'elle va contre nous. Et la douceur, c'est se dire, ouais, cette amertume-là, c'est pas l'amertume de « je suis amer », c'est ce qu'il me faut. Hein. Et j'ai des allergies aux graminées, mon épouse me prépare des huiles essentielles là, qui font que j'évite les médicaments la plupart du temps. Je dois les prendre 3 fois par jour. Qu'est-ce que c'est amer ? C'est pas bon. Bah. Mais je les prends avec plaisir parce que je me dis, en prenant ça, j'évite la cortisone et les autres saletés et je peux vivre dans la nature. Mais ça reste amer. Mais je les prends avec douceur parce que je sais pourquoi. Et c'est comme ça qu'on doit accueillir la parole de Dieu. Et puis, elle va transformer nos âmes. Elle a le pouvoir de transformer nos âmes, de les sauver, de devenir aigris, méchants, petits, mesquins, rabougris, étriqués. Ah, c'est horrible. Hein ? Non, on ne veut pas être comme ça. Moi, j'espère qu'un jour, si je suis dans un homme et que j'ai plus de mémoire, les gens viendront me voir et dire... Qu'est-ce qu'il est doux ? Est-ce qu'il y aura eu du travail qui se sera fait ? Mais c'est ça qu'on veut. Hein ? Parce que d'abord, c'est le meilleur pour nous. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Parce que c'est une caractéristique de Dieu. Et puis, ben, c'est une belle chose. Alors, je vous souhaite un été en douceur, mais peut-être pas exactement comme on peut l'imaginer. Et puis, que ça fasse ce travail en vous. Et puis, si vous avez noté des petites semences de... douceur à planter, à cultiver, à méditer, voilà, gardez-les. Éventuellement, si vous voulez en faire un retour après l'été, ça sera avec plaisir. Hein. J'ai pris cette graine-là et puis je l'ai plantée et puis ça a poussé pendant l'été et ça a fait ce petit fruit-là. Moi, ça me ferait plaisir de le voir, de le goûter peut-être si vous êtes généreux. Hein. Voilà. Seigneur, on te remercie pour ce que tu es et ce que tu peux faire en nous. Pour ta douceur qui t'a amené à marcher jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix, à affronter la trahison, la souffrance, la douleur, et à faire face à tout ça parce que tu avais en vue le plan qui avait été établi, et puis tu nous voyais déjà et tu nous aimais déjà. Et on te demande que cette douceur fasse partie de nos vies toujours plus, que par tes pensées, par ta parole, par le travail de ton esprit en nous, elle puisse contrôler nos vies et qu'elle nous sauve de l'amertume, de l'aigreur, de l'étroitesse, et qu'on puisse vraiment le manifester. Que ces pensées puissent germer en nous pendant toutes ces journées, ces semaines qui arrivent, et qu'on puisse être rempli de toi.